C'est le rendez-vous signé de Radio Okapi. Les chemins détournés et vous anciens députés, la descendance reliquée, c'est chaque samedi de 15h à 17h sur Radio Okapi. Je suis Mme Abolivier et Léonoto et je vous y attends.
En RDC, il y a des endroits où parfois il fait pas bon vivre, hein, pour cause l'air est pollué, une pollution due au manque de sanitaires sur les places publiques. Et d'ailleurs, à Kinshasa, on voit beaucoup de personnes uriner sur les places publiques et c'est des odeurs terribles. Il y a parfois la saleté qui dégage des odeurs nauséabondes, la poussière et autres, les déchets toxiques dégagés par certaines usines. Alors, la population est exposée à plusieurs, cela expose la population à plusieurs maladies respiratoires. Comment lutter contre la pollution de l'air, Jean des Dieux Minemo?
Ok, merci Jody pour la question. Et comme on l'a toujours dit, les questions de l'environnement, ce sont des questions importantes qui touchent beaucoup de sociétés à travers le monde. Je crois que quand on parle même de la pollution ici à Kinshasa ou la pollution atmosphérique, je crois que cette question, jusque-là, ne fait pas encore partie des priorités du pouvoir public en République démocratique du Congo, parce que les gens ont d'autres priorités. On oublie qu'on peut s'attendre à un développement solidaire, à un développement économique durable, si l'environnement n'est pas favorable. Donc l'environnement, c'est quelque chose qui doit être parmi les priorités du gouvernement dans la définition de ses politiques pour le développement économique et pour le développement social. La question du changement climatique, parce que la pollution dont on parle, ça fait pas, le changement climatique fait partie également de tout ce qu'il y a comme pollution, c'est une question prioritaire. Mais aujourd'hui, les choses, quand on voit la manière dont nous gérons cette question en République démocratique du Congo, c'est avec beaucoup de légèreté, c'est avec beaucoup de mépris. On voit comme si la nature était à notre disposition et que nous pouvons la mettre. Demain, aujourd'hui, je l'ai dit, il faut être courageux pour dire que si nous continuons avec cette manière de nous comporter, si nous ne changeons pas nos stratégies, si nous ne changeons pas nos politiques vis-à-vis de l'environnement, je dis que les jours qui viendront, nous allons pleurer. Parce que nous sommes l'unique pays où les gens sont toujours en train de pleurer. On se plaint, voilà, tout ce qui arrive. On demande au président français de faire comme si le président français n'avait pas d'autres préoccupations, il viendrait régler les problèmes. C'est que les questions de l'environnement doivent nous préoccuper. Si les questions de l'environnement ne nous préoccupent pas, cela montre que nous sommes en train de faire preuve de manque de réalisme.
Et c'est quoi la pollution de l'air?
La pollution de l'air, pour aborder directement la question, c'est l'introduction au niveau de l'atmosphère de tout ce qui peut être comme substance, de tout ce qui peut être comme produit, qui peut alors perturber la qualité et la pureté de l'air avec des conséquences sur la santé humaine, sur la biodiversité, sur les écosystèmes qui pourraient entraîner également le changement climatique, mais aussi détériorer les biomatériels si la pollution n'est pas très bien contrôlée.
Voilà, et quelles sont ces substances-là qui peuvent polluer l'air?
Bon, avant de citer, c'est la bonne manière pour parler des substances qui peuvent polluer l'air, il faut parler d'abord des sources. Ce sont les sources de pollution. Donc c'est à travers les sources qu'on peut
les grands pollueurs.
Voilà. À partir de telles sources, voilà les éléments que telles sources envoient dans l'atmosphère en termes de pollution, etc. Donc on a, dans ce qui concerne la pollution, vous avez ce qu'on appelle les sources fixes et vous avez ce qu'on appelle les sources mobiles. Les sources fixes, vous avez par exemple les éruptions volcaniques. Ça se renvoie, ça c'est naturel. Vous avez, ça reste là-bas. Vous avez des sources fixes comme les usines. Ça renvoie des quantités importantes de polluants dans l'atmosphère. Mais vous avez également ce qu'on entend par les sources mobiles. Là, dans les sources mobiles, vous avez comme des véhicules qui roulent. Ça renvoie des polluants dans l'atmosphère. Donc, voilà ce qu'on peut faire à ce qui concerne le type de sources de pollution. À ce qui concerne maintenant la nature de pollution, vous avez ce qu'on appelle la pollution peut être anthropique ou la pollution peut être naturelle. Parce que la pollution, ce n'est pas quelque chose qui est né aujourd'hui. Déjà, il y avait déjà des polluants dans l'atmosphère. Quand on voit la composition de l'air, on voit qu'il y a également des polluants. Il y a également
C'est quoi la pollution anthropique, hein?
Bon, la pollution anthropique, c'est la pollution provoquée par l'homme. Là, vous avez, lorsque vous construisez une usine, et ça renvoie, ça c'est anthropique. Ça, c'est l'homme qui va. Lorsque vous êtes en train d'incinérer les déchets, vous êtes en train d'envoyer des polluants.
On le voit à Kinshasa, quelqu'un qui brûle les saletés en pleine rue, et puis la fumée se répand, et c'est tout le monde qui est
mal à l'aise. Oui, mais tout le monde est à l'aise parce qu'il n'y a pas de loi, il n'y a pas une réglementation par rapport à tout ça. Le peuple doit être éduqué, le peuple doit être informé. Tant que les gens ne sont pas informés, tant que les gens ne sont pas éduqués, ils pensent que le fait de brûler des déchets, c'est une bonne pratique et ils continuent à le faire. Alors, lorsqu'on est en train de brûler des déchets, on envoie, je dis, comme on parle de la pollution, des polluants organiques persistants qui sont des composés extrêmement cancéreux. Vous avez des dioxines et les furans qui sont envoyés dans l'atmosphère. Et ça, c'est très très dangereux pour la santé humaine.
Quand on respire ces terres-là.
Même quand on respire, si la dose devient beaucoup plus intéressante, et ça va provoquer des dégâts dangereux. Parce que le problème ici, que les gens pensent que lorsqu'il y a de la pollution, les effets, c'est le même jour. Non. Il faut que la dose puisse atteindre le niveau qui lui permet de pouvoir causer des effets. Si la dose n'a pas encore atteint le niveau, il faut attendre au fur et à mesure que tu accumules des doses, et il y aura des effets.
Il y a des gens, par exemple, qui vivent dans les milieux insalubres ou qui vendent même, il y a certains marchés, vous trouvez une maman qui vend des poissons ici, à côté il y a des immondices, des collines des immondices, à côté elle respire ça à longueur de journée, monsieur Jean.
Oui, je dis, la question des déchets, je crois qu'on l'avait déjà débattue dans l'une des émissions ici, qui est une question tout à fait et prioritaire pour beaucoup de villes à travers le monde, mais ici ce n'est pas encore une priorité, on est préoccupé à acheter des maisons et autre chose. Donc, lorsque les déchets ne sont pas très bien gérés en réalité, les déchets vous envoient d'abord du méthane, qui est un gaz qui participe à ce qu'on appelle l'effet de serre,
des odeurs nauséabondes.
Des odeurs nauséabondes. Et dans les déchets, il peut y avoir le développement de ce qu'on appelle les bactéries, le virus, le champignon, qui peuvent se retrouver également dans l'air et en train de contaminer la population. Et ça, c'est le problème également de pollution. Donc, tout ça. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire pour que les gens prennent conscience de tout cela. Il faut appeler Simon Kimbangu, qui est un grand prophète de Dieu, pour venir dire où il faut faire quoi par rapport à tout
ça. Il y a même certaines rues, dans certaines rues à Kinshasa, quand vous passez, les gens urinent n'importe où, et quand vous passez, ça vous pique. Hein,
je crois que notre problème, c'est pas le problème d'un individu, c'est un problème que je crois c'est des ordres nationaux et chacun doit être responsable de tout ce qui se passe. Les universités ont une responsabilité parce que les universités doivent être là pour montrer à la société le chemin qu'elle devra suivre. Et les ONG, également les églises, devraient être là pour appuyer le pouvoir public à mieux faire les choses. Donc chacun a sa part de responsabilité. Le pouvoir public a une grande part de responsabilité. Pour ne pas avoir mis un cadre qui nous permet d'avoir l'air, je voudrais terminer pour dire que l'air est d'une importance capitale. Ça ne demande pas de démonstration mathématique pour qu'on sache que si l'air est pollué, on ne sera pas en bonne santé. Par jour, le nombre de litres d'air consommé par un individu, mais c'est énorme. On est autour de 10 000 à 15 000 litres d'air. Mais si cet air est pollué aujourd'hui, vous devenez qui?
Bien. Nous avons un auditeur en ligne, Raphaël Tumunga, il est à Lubumbashi. Bonjour Raphaël.
Oui, allô, monsieur Joël.
On vous écoute. Hein.
Oui, concernant le sujet indigène, je vois que l'homme se fait l'ennemi de lui-même dans la mesure où il y a certaines personnes qui cherchent qu'il est appris les forcer à détenir les parcelles ou les attaquer. Je vois que ce sont les gens que l'État doit prendre certaines mesures pour les déplacer, surtout les gens qui restent dans des centres-villes, dans des endroits publics, il faut les déplacer pour que les gens puissent respirer. Parce qu'il faut les gens qu'il faut les déplacer pleinement dans des endroits vraiment éloignés de la population.
Merci, Raphaël. Les gens des dieux.
Je sais pas, j'ai pas bien compris ce qu'il voulait dire.
L'homme est ennemi de l'humain, ces gens-là qui peut-être qui polluent l'air, d'après lui, il faut les déplacer. C'est ce qu'il a dit.
Bon, en fait, c'est notre ami Raphaël. Je crois que Raphaël, il peut avoir raison dans ce qu'il est en train de dire. C'est que l'homme, il est ennemi de lui-même. Oui, c'est l'homme, il est ennemi de lui-même. Mais la société doit avoir un certain nombre de normes, de règles qui doit régir la société.
Mais on dirait que l'air est pollué beaucoup plus dans les centres urbains. Au village, les gens respirent l'air frais.
Vous avez pleinement raison, je dis. La pollution, elle est beaucoup plus importante dans les centres urbains que dans les villages. Parce que dans les centres, pourquoi la pollution est importante? Parce que dans les villes, vous avez un nombre impressionnant de véhicules qui renvoient des quantités importantes de polluants dans l'atmosphère. Vous avez le dioxyde de soufre, vous avez
la fumée que
vous avez. La fumée, vous avez le dioxyde de soufre, vous avez les oxydes d'azote, vous avez autant de composés qui sont là et qui polluent extrêmement. Mais quand vous êtes au village, vous n'avez pas des nombres de véhicules importants, vous n'avez pas d'usine. Et la plus grande difficulté aussi en ville, aujourd'hui, c'est le fait que les habitations se succèdent. Donc il n'y a pas d'espace libre. Et la circulation de l'air profond. Or, le vent est un élément important dans le cadre de la dissipation de la pollution. Mais en ville, l'air circule très mal.
Il semble que les arbres aussi jouent un rôle important par rapport au cycle de l'air.
Bien sûr, les arbres permettent de recycler en principe l'air. Mais également, il faut aussi dire qu'au village, également, les forêts peuvent mettre également des polluants organiques au niveau de l'atmosphère, mais qui ne doivent pas avoir les mêmes effets que les polluants qui sont émis à partir de l'utilisation du mazout, etc., etc. Donc, la pollution, comme vous l'avez dit, vous avez bien raison, elle est beaucoup plus importante dans les centres urbains que dans les milieux ruraux.
Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment lutter contre cela?
Je crois que la bonne manière de lutter contre la pollution, les quelques conseils qu'on peut donner sans entrer dans les considérations académiques, c'est que la pollution, elle est toujours là avec nous. Parce que je prends l'exemple des habitations dont nous avions. Déjà, il y a des polluants avec nous. Nous vivons avec des polluants. Le peinture que nous mettons dans nos murs, ça dégage des polluants organiques. Vous avez les aérosols qu'on utilise dans les maisons. Et aujourd'hui, il faut dire que ces polluants,
les insecticides,
tous ces insecticides-là, ça dégage. Tout ça, c'est de la pollution. Et les produits qu'on utilise pour nettoyer les maisons, ça dégage des polluants. Au fur et à mesure que l'utilisation devient beaucoup plus importante, bon, vous allez accumuler avec le temps des quantités importantes de polluants et qui, les jours à venir, vous savez, surtout la pollution atmosphérique, c'est toujours le poumon qui est beaucoup plus affecté parce que c'est l'air. Et également, ça provoque des maladies cardiovasculaires. Donc, il faut toujours prendre des dispositions, surtout au niveau des ménages.
Bien aérer la maison.
Oui, que la maison soit vraiment très bien aérée au moins par jour. Il faut qu'elle soit bien. Et lorsqu'on utilise ce produit, souvent les enfants qui sont très vulnérables et les personnes âgées doivent être vraiment éloignés de là où vous êtes en train d'utiliser ce produit après un temps bien déterminé. Donc, également, là où les gens qui font, par exemple, des photocopieuses, des imprimantes laser, tout ça, des machines électriques, ça dégage. Il y a la formation de l'ozone à ces endroits-là. Donc, il faut que votre, là, si vous avez une bureautique, ça soit complètement bien aéré. Sinon, il y a une production importante de zones qui peut avoir des
climatisations, par exemple, les climatiseurs dans la pièce.
Non, mais je ne sais pas si le climat. Pour moi, il faut un système où les vents qui viennent de l'extérieur peuvent entrer à l'intérieur et ce qui est à l'intérieur pour encore sortir. C'est le système qui doit être beaucoup plus naturel. Et
le climatiseur aussi joue ce rôle-là.
Oui, ça joue ce rôle, mais je ne sais pas en tout cas. Mais sinon, si ça permet, ça pourrait être intéressant. Pour nous, c'est que la maison soit très bien
aérée. Voilà. Confiance à Kabongo et à Kinshasa.
Bonjour. Bonjour Kassama, bonjour Ninengo.
Bonjour Confiance.
Je suis content de vous entendre. Oui, en fait, il est vrai qu'on ne peut pas vivre sans pollution actuellement. Nous devons faire avec en attendant des solutions durables. En dehors de la sensibilisation, qui est peut-être la meilleure façon de la prévention, est-ce qu'il n'y a pas d'autres plantes que nous pouvons avoir dans notre environnement qui peuvent nous aider à purifier l'air d'une manière simple et vitale, qui peuvent se planter à petite échelle, bien sûr, mais avec un impact plus grand, parce que nous sommes dans des villes, comme vous l'avez dit, nous vivons avec. Parce qu'on ne va pas arrêter les usines aujourd'hui.
Oui.
Des plantes qui peuvent nous aider à purifier l'air.
Oui, je crois qu'on vient de merci beaucoup pour votre intervention. Je crois que tout ce que nous avons comme plante ou tout ce que nous avons comme arbre au niveau de ville joue un rôle important dans la purification de l'air. Mais lorsque la pollution devient importante au niveau de l'atmosphère, je dis, mon ami Confiance, il y a des conséquences même sur les arbres. Lorsque, au niveau d'une ville, on renvoie des quantités importantes de dioxyde de soufre et d'oxyde d'azote au niveau de l'atmosphère, sûrement, en contact avec l'eau, il y aura formation de ce qu'on appelle les acides. Et ces acides, lors de pluie, vont revenir sur la surface terrestre et vont poser de sérieux problèmes au niveau de l'écosystème forestier en détruisant l'altitude de beaucoup de plantes. Vous avez par exemple des dépérissements au niveau des forêts, etc., etc.
Alors à la maison, par exemple, quel arbre peut-on planter qui permet de purifier l'air?
Non, parce que tout les arbres servent pour la purification de l'air. Mais le problème, c'est qu'au niveau de la maison, c'est difficile de planter un arbre. Ce sont ce qu'on appelle les plantes ornementales, qu'on généralement utilise pour pouvoir essayer un peu de purifier l'air.
Il ne faut pas aussi, il peut y avoir un manguier ou...
Il ne faut pas aussi en exagérer. Oui, ça c'est dans la parcelle à mon avis. Ouais. Ça c'est dans la parcelle, mais pas à l'intérieur de la maison. Mais il ne faut pas exagérer aussi le nombre de plantes ornementales dans votre maison, sinon il y aura des compétitions sur le flanc de l'oxygène parce que les plantes ont également besoin d'oxygène pour pouvoir respirer.
Mais il y a dans certaines parcelles, il y a de la pelouse, vous avez des.
Ça c'est très important, il faut en avoir, ça c'est très important.
Vous avez des arbres,
oui, ça c'est important.
C'est important. Oui. Voilà, les questions de préoccupation, vous pouvez composer le 081-899-63-94.
Au pays des léopards, le ballon est roi. et le football a désormais son émission. Au Café Foot, chaque dimanche de 18 à 19h. Autour d'un invité, l'équipe de sport vous invite à réagir en direct sur l'actualité après les matchs du jour. Coupe, championnat, Ligue des champions, Radio Capi vous donne la parole. Au Capi Foot, c'est en direct et c'est le dimanche de 18 à 19h. Appelez le 081 890 64 89.
Comment lutter contre la pollution de l'air? Monsieur Jean-Didier parlait à présent de la poussière. Vous savez, la poussière, c'est également un grand polluant.
Oui, merci beaucoup, Jody. Je crois que dans tout ce qu'il y a comme polluant, vous avez ce qu'on appelle les particules solides en suspension. Et dans ce qu'on appelle les particules solides en suspension, vous avez également les poussières qui sont là. Donc, lorsque vous vivez dans un milieu où il y a une pollution extrêmement importante, il ne faut pas croire que rester dans la maison, vous n'êtes pas pollué. Or, la pollution au niveau de la maison, dans une région qui est complètement polluée, dans un quartier où la pollution est très intense, c'est lorsqu'on se retrouve dans la maison qu'on est beaucoup plus pollué qu'on est à l'extérieur. Parce qu'à l'extérieur, il y a le mouvement de vent qui permet de dissiper la pollution, et à l'intérieur, les polluants restent intacts et vous les accumulez en quantité. Donc, c'est pourquoi nous sommes en train de dire que les échanges entre l'extérieur et l'intérieur de la maison interne de l'air doit se faire pour pouvoir vous épargner. Ne pensez pas que parce qu'il y a de la pollution, il y a de la poussière au niveau des clignotants, vous passez à votre vestibule, vous êtes épargné. Non, vous êtes beaucoup plus pollué que ceux qui marchent à pied. Ça, il faut le savoir.
Après, comment ça?
Mais c'est normal, parce que c'est lui qui est à l'extérieur, je dis. Le polluant est dissipé. La pollution, elle est dissipée. Maintenant, je voudrais vous dire, mais c'est concentré. Les casques que nous portons, les écharpes, tout ce que nous mettons, des lunettes, tout de quoi, des casques, c'est pour lutter contre ce qu'on appelle les particules solides. Mais les particules qui sont très fines, vous n'allez pas lutter contre ça. Vous devez aspirer ça, et un jour, vous aurez des conséquences par rapport à tout cela. Donc, même dans la construction de routes, ce qui est en train de se faire, je crois que les gens doivent prendre les dispositions nécessaires pour qu'on ne renvoie pas dans l'atmosphère des quantités importantes de poussière. Parce que ce sont des problèmes. Il y a beaucoup de maladies. Allez dans le journal de Kingassani où il y a énormément
il y a de travaux.
Il y a des maladies. C'est très simple à faire. On peut jeter des routes sur la voie pour ne pas envoyer des quantités importantes de poussière dans l'atmosphère. Oui. Ça, je crois, à mon avis, ça ne demande pas de la magie ou des miracles à vous opérer par rapport à tout ça.
Jean Zouanga nous appelle des Kikuit. Bonjour.
Bonjour.
Quand vous écoutez, Jean.
J'ai deux préoccupations que je voulais demander à notre invité.
Oui, Jean.
La première est celle-ci. Nous avons des prostituées que nous appelons des sujets indiens qui détruisent les sachets constituant les produits pharmaceutiques et les cartons constituant les denrées alimentaires dans l'espace de leur parcelle en plein air. Donc cela ne constitue pas une infraction pour la pollution de la nature. Ça, c'est la première question. Deuxième question, il incinère soit les produits pharmaceutiques ou certaines denrées alimentaires pour éviter que ces produits soient détruits par les services de l'État dans leur parcelle dans les résidences respectives. De cette manière, la plus tard ne peut pas constituer soit une maladie à l'avenir. Hein? Bon, voilà. Et ces gens sont trop protégés par l'État, notre État. Quand vous allez intervenir pour arrêter ces gens, ils vous disent non, moi j'ai une parapluie à l'échec. Qu'est-ce que nous allons faire à l'avenir pour qu'on puisse essayer d'arrêter cette
pollution. Merci Jean pour votre courage de dire les choses de façon très ouverte. Je crois que le problème de dire qu'il faut, si vous intervenez, non, le développement des pays ne dépend pas de la puissance de qui que ce soit. Le développement, et nous sommes tous des co-gestionnaires de la République et chacun a un droit à dire par rapport à ce qu'il pense, ce qui devrait être la République démocratique du Congo. Donc il n'y a personne qui ne soit pas là, qui n'a pas le droit de dire que
tu dois brûler les cartons, c'est lui et les
autres. Non, il n'a pas le droit. Alors, à ce qui concerne ce qui se passe, les gens brûlent les sachets, les cartons ou les produits pharmaceutiques. Je l'ai dit tout au début, c'est que tant qu'il n'y aura pas de règles de jeu, on croit que nous sommes vraiment dans une situation tout à fait archaïque. Il n'y a pas de règles de jeu, il n'y a pas de loi. C'est tout ce désordre. Et la difficulté aussi, même s'il y avait des lois, c'est tout à fait difficile que cela soit respecté. Les gens marchent sur ça, oui, sinon. Mais tout ça, ça prendra fin un jour, à mon avis. Donc, les gens qui brûlent les sachets et les cartons, qu'ils sachent bien. C'est ce que je voudrais dire. Je vous dis, la pollution n'a pas de frontières. Hein. La pollution peut passer d'un pays à un autre sans qu'il puisse aller à l'ambassade pour chercher le visa ou quoi que ce soit. Donc, quelqu'un qui brille les sachets sur lui,
tout ça et la pollution.
Il pollue également.
Il pollue. Ça ne peut pas dire que ça s'arrête seulement chez lui. Ça peut devenir une pollution du fils. Ça se répand dans presque toute la vie et ça peut avoir des. Et surtout tout ce qui concerne les matières plastiques, je dis, je termine, que les matières plastiques sont extrêmement dangereuses parce que lorsqu'on les brûle, elles renvoient dans l'atmosphère les polluants très dangereux comme les dioxines. Et le suivant, il est strictement interdit de pouvoir les brûler.
Mais les matières plastiques,
oui, sans mer, on peut tout brûler cette matière. Ça, c'est extrêmement dangereux. Mais les usines qui produisent des matières plastiques, ce sont des usines extrêmement dangereuses parce que ces usines renvoient des polluants organiques persistants qui ont des effets extrêmement dangereux sur la santé de la population. Mm-hmm. Pour terminer, je voudrais dire qu'il est tout à fait important s'il y a les ONG. Vous devez toujours vous sensibiliser les gens, le voir que ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas intéressant. Rencontrer le maire de la ville, discuter avec lui pour dire que ça compromet la santé des gens. Ils ne vont pas, et même si vous arrêtez aujourd'hui, vous serez libéré. La vie, c'est comme ça. Il faut toujours faire pour en sorte que les choses avancent.
Christian Kitenge est à Calémy. Bonjour. Christian, vous êtes à Calémy. Bonjour. Désolé. Christian n'est plus en ligne. François Ngoma, de Lumbashi, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, François.
Oui, je voulais juste intervenir à ce qui concerne le sujet du jour. Ce qui concerne la pollution, surtout dans les cités universitaires. Nous prenons l'exemple dans le cas de Lubumbashi, de l'université de Lubumbashi. Presque chaque faculté a des toilettes publiques pour des facultés. Mais qu'est-ce que nous remarquons pour qu'un étudiant puisse accéder aux toilettes? Il faut débourser l'argent. Alors, comme conséquence, les étudiants se méfient. Ils vont faire leurs petits besoins dans la forêt ou soit tout au long aux environs des bâtiments des facultés. Alors, si nous allons même dans les homes, vous verrez que presque dans chaque homme, les toilettes sont bouchées. Les douches sont bouchées et il y a maintenant le phénomène pause où les étudiants vont dans la forêt ou soit dans la bouche tout au long de l'université, des cités universitaires. Ils polluent par les petits bazars, les urines, tout ça, les caca, tout au long de l'université. Et tout ça, les autorités académiques trouvent ça normal. Et l'invité du jour a fait aussi, a dit quelque chose de très important en ce qui concerne les photocopieuses. Vous verrez que dans le site universitaire de l'université de Lubumbashi, vous verrez que nous sommes envoyés par des photocopieuses où il n'y a même pas une régulation sur les fonctionnements. On jette les bruits partout, on jette les matières partout, et au moins l'environnement est très pollué. Alors je voulais savoir si qu'est-ce que l'invité peut nous proposer à ce qui concerne la pollution au niveau des cités universitaires.
Merci François Ngoma. David Lunga, vous êtes à Kisangani. Bonjour.
Bonjour.
On vous écoute.
Oui, moi je voudrais dire ceci. En ce qui concerne la pollution, pour lutter contre cela, ça demande vraiment un don. Et si l'invité dit aujourd'hui que les électroniques aussi causent de la pollution, c'est que la télévision aussi peut poser la pollution dans la maison, c'est que c'est inutile. Donc, pour moi, il est allé un peu trop loin avec ça.
Il est allé un peu plus loin.
Oui.
Merci David, il va répondre tout à l'heure. Patrick Nonda, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour, monsieur.
On vous écoute bien.
Ok, je voulais juste compassion avec monsieur Christian de Lulu.
Mmh.
En fait, nous aussi, nous sommes à l'Ukraine, nous utilisons de même une manière que eux.
Mmh.
Nous, si qu'on est à l'Ukraine, il n'y a pas ni toilette, ni quoi. Nous faisons vraiment, ici juste à côté de nos auditoires et ça nous dérange.
Ça pollue l'environnement.
Oui, ça pollue l'environnement. C'est pourquoi...
Pourquoi, Patrick, est-ce que c'est parce que les toilettes sont bouchées ou bien il n'y en a pas?
Il n'y a pas de toilettes. Depuis, je ne sais pas, il y a combien de promotions qui ont été créées, il n'y a pas de toilettes.
Comment ça, il n'y a pas de toilettes?
Non, je ne sais pas. C'est juste après là, j'ai dit qu'on avait construit. On n'a même pas eu le temps de sensibiliser les étudiants pour aller faire pipi dans les toilettes.
Oui.
Mais depuis qu'on avait construit les toilettes, c'est fermé et nous faisons pipi, ce n'est qu'en dehors. Si vous partez, vous ne saurez pas même quoi résister là-bas.
Et il y a des odeurs terribles, j'imagine.
Terriblement, pour moi, je ne sais pas comment vous expliquer ça.
Merci, Jean-Bédien.
Oui, je crois que...
Comment vous êtes constitué?
Notre ami de l'UPEN a posé pratiquement la même préoccupation, notre ami de l'Université de Lubumbashi. Oui. Je crois que les questions qui se posent au niveau des universités en ce qui concerne la salubrité et puis tout ce qu'il y a comme pollution qui peut en résulter, et je pouvais dire que ça demande de l'organisation, comment les choses peuvent être bien organisées. J'ai eu une discussion très intéressante avec le secrétaire, comme on parle de l'université, avec le secrétaire général académique de l'université de Pitt. Et là, les choses sont très bien organisées, à mon avis. Hein. C'est pas comme ça.
Mais généralement, les toilettes dans les sites universitaires, c'est un problème.
C'est un problème. Moi, j'ai étudié à l'université de Kinshasa, et je sais dans quel état que moi j'ai vécu à l'université. Et c'est triste. Mais le problème, c'est que si aujourd'hui, au niveau des universités, ça, il faut être très clair, on n'arrive pas à régler les problèmes avec beaucoup d'efficacité, avec beaucoup de pragmatisme, je ne sais pas quel est l'avenir de la République démocratique du Congo. Parce que les universités, c'est le centre de production du savoir.
Ça, l'université, et ça, c'est ça, parce que vous allez aux toilettes, vous respirez ces odeurs.
Bien sûr, ça pique. Il y a l'université où les gens peuvent donner des voix que la société devrait suivre. Bon, si à l'université, on n'arrive pas à régler des problèmes comme ça aussi, à mon avis, qui ne sont pas extrêmement complexes.
Pourquoi c'est parce qu'il n'y a pas un service d'entretien, on n'a pas de produits pour nettoyer.
Il y a des services d'entretien, mais il faut une organisation, il faut une volonté extrêmement intéressante pour faire avancer les choses. Donc, je crois que c'est ça. Quand notre ami parle que tout ce que je parlais, par exemple, de photocopieuses et de machines électriques qui peuvent être là sur base de la pollution, je n'ai pas trop exagéré, mais c'est que nous devons dire ce qui existe, ce qui est prouvé scientifiquement. Le problème, ce n'est pas qu'il faut ne pas utiliser. Mais ce que nous avions dit, par exemple, lorsque vous êtes en train d'utiliser tout ce qu'il y a comme photocopieuse, tout ce qu'il y a comme imprimante laser, tout ce qu'il y a comme machines électriques dans une salle qui n'est pas très bien aérée, c'est ça que nous avions dit. Ça pose des problèmes de production d'ozone qui doit avoir des répercussions sur votre santé. Si vous voulez vivre dans cet environnement, nous, notre point, nous donnons l'information. Mais si vous acceptez que vous devez installer tout ce qu'il y a comme votre bureautique dans un endroit qui n'est pas aéré, sachez que dans les jours à venir, vous allez accumuler des quantités importantes de sang qui doivent avoir des répercussions sur votre santé. Et ça, il faut en être conséquent.
Il n'y a pas d'exagération à créer aussi.
Tout ce qu'il y a comme composants, tout ce qu'il y a là, tout ce que nous avions dit, tout ça, des machines électriques, il y a la production de tout ce qu'on appelle les ondes qui a des répercussions sur la santé des communautés. Voilà tout ce qu'on peut dire. Il n'y a pas d'exagération. C'est tout ce qui est prouvé, c'est tout ce que la science a dit. Mais ce n'est pas dire qu'il ne faut pas les utiliser, mais il faut les utiliser avec modération. Quand on dit que les téléphones, il ne faut pas les utiliser à chaque instant, on ne demande pas aux gens de les utiliser, pas ça, des répercussions de toutes les façons sur la vie des gens. Si vous voulez les prendre comme quelque chose qui doit régler votre vie de façon éternelle, il faut être conséquent des conséquences qui vont vous arriver. Donc, vous voyez, le développement des maladies comme le cancer, c'est tout ce qui a comme pollution, exactement. L'agro-industrie nous a pris en otage. Aujourd'hui, il y a des pollutions, nous respirons l'air qui n'est pas de bonne qualité, qui est le développement de beaucoup de maladies en Europe. Vous voyez, des formes de 35 ans, le cancer des seins, tout ça, c'est quoi? C'est tout ce qui est comme pollution, l'agro-industrie, les produits chimiques, etc. Il faut arriver à réglementer tout ça. Si on ne peut pas dire qu'on ne peut pas utiliser, mais il faut une réglementation
par rapport à tout, tout cela. À Kotangi, nous appelle depuis Ouacha, voilà, Ouacha dans la province orientale. Bonjour à Kotangi.
Oui, bonjour, monsieur Jody, Daniel Kachala.
On vous écoute.
Ok, ma préoccupation était celle de savoir si la pollution au milieu, la quai, par exemple, le cours d'eau, le fleuve, la rivière, par rapport à l'exploitation artisanale de l'or. Parce que chez nous, ici, à Ouacha, nous avons constaté qu'il n'y a pas de poisson, bien que nous avons de l'eau, mais que les invités puissent nous expliquer ce si, par rapport à la pollution de l'eau, ça a une influence aussi sur... La vie des animaux qui vivent par exemple dans l'eau. C'est ça ce que j'avais comme préoccupation.
Merci, Dieu donné.
Oui, mon ami à Kotangi, je crois que vous avez vous-même les constats et vous avez la réponse pratiquement à votre question. Il y a ce qu'on appelle la convention de Bâle qui interdit l'immersion dans les mers, dans les eaux, tout ce qu'il y a comme déchets toxiques. Lorsque vous lors de l'exploitation de l'or, uniquement qu'il y a des produits extrêmement toxiques, vous les mettez dans l'eau, vous empêchez la reproduction des poissons au niveau de mer. C'est la même chose, même dans l'exploitation du pétrole. Lorsque l'eau est polluée, c'est fini. Les poissons ne vont plus se développer. C'est pourquoi la pollution a une influence tout à fait négative sur la biodiversité dont nous avions déjà parlé. Dans la biodiversité, vous avez tout ce qu'on poisson, vous avez les oiseaux, vous avez d'autres mammifères qui existent dans la nature. Donc c'est tout à fait normal que lorsque l'exploitation n'est pas contrôlée, lorsque l'exploitation n'est pas rationnelle, il n'y a pas un cadre qui réglemente tout cela, tous les déchets, les gens les versent dans l'eau. Et la conséquence, c'est qu'il n'y a plus de poissons. Et si les quelques poissons qui se retrouvent là sont déjà contaminés, et vous avez une contamination qui va dans ce qu'on appelle la chaîne alimentaire, vous avez les poissons qui sont contaminés, les gens vont consommer les poissons contaminés et même se trouvent maintenant contaminés.
Et donc, c'est et tout
le monde est finalement contaminé.
Alors, quels sont les moyens efficaces à mettre en place pour lutter contre la pollution de l'air?
Voilà, les moyens efficaces.
Vous avez dit, premièrement, il faut avoir des arbres, vivre dans un environnement où il y a des plantes, des arbres.
Le problème, ce n'est pas. Parce que les arbres, c'est la purification de l'air. Donc, moi, j'aimerais dire que pour pouvoir lutter contre la pollution de l'air, c'est ça que nous respirons. Je crois que le premier élément important, c'est le cadre réglementaire. Il y a beaucoup de lois dans beaucoup de pays qui réglementent la pollution de l'air.
Mmh.
Donc, ça, c'est le premier élément. Parce que quand vous avez des lois, vous allez maintenant bien contrôler les sources de la pollution. Vous avez, par exemple, nous avons parlé ici, les décharges illégales, où les gens vont jeter des déchets comme ça dans la nature. Mais c'est lié pour le développement de beaucoup de microbes, de bactéries, de virus qui vont se trouver dans l'atmosphère.
Mm-hmm.
Vous avez par exemple les véhicules qui doivent être au visage. Ces véhicules sont utilisés, sont mis dans les transports. Ils dégagent des monoxydes de carbone.
Ils devaient être déclassés,
bien sûr. Mais sans menacer. Si en 2006, je crois bien 2006 ou 2005, la ville de Téhéran était parmi les villes les plus polluées au monde à cause de véhicules qui étaient en mauvais état. Donc, lorsque vous avez un nombre impressionnant de véhicules qui sont en mauvais état, ça c'est
des gaz de la fumée, non?
Vous avez du monoxyde de carbone, vous avez tout ce qu'il y a comme polluant, parce que la combustion ne se fait pas normalement, ça renvoie dans l'atmosphère des polluants extrêmement dangereux pour la santé humaine. Donc, le cadre réglementaire, à mon avis, c'est l'unique arme pour que l'air que nous devons respirer soit un air pur. Tant qu'il n'y aura pas un cadre réglementaire, bon, tout ce que les initiatives isolées ne pouvaient jamais aboutir à des résultats concrets. Il faut que les initiatives soient coordonnées par un cadre, et là, on peut s'atteindre à un changement ou une amélioration de la qualité de l'air dans la ville de Kinshasa ou dans la culture de la culture du Congo.
Donc, la première chose, il faut un cadre réglementaire.
Et ça.
Alors, l'arbre, vous avez dit l'arbre joue le rôle, elle purifie l'air.
Comment?
Pouvez-vous nous expliquer ce processus?
Mais le processus, c'est la respiration comme nous le faisons. Donc, vous avez, comme nous respirons, et lorsque la plante absorbe par exemple le CO2, vous avez par exemple l'oxygène qui rentre dans l'atmosphère et vous avez le carbone qui reste. Si c'est la photosynthèse, vous avez le carbone qui reste et vous avez tout ce processus. Donc, à travers ce processus, vous avez ce qu'on appelle la purification de l'air. Mais attention, je vais citer. Ça ne veut pas dire qu'il faut polluer parce que les arbres vont purifier de la pollution, vont faire partie des polluants. Ça, c'est extrêmement dangereux. Faut pas qu'on dise ça. Je ne dis pas tout ça. Lorsque l'environnement est pollué, les arbres, tout comme l'écosystème, vont avoir des répercussions sur cette pollution. Parce que si vous avez envoyé, comme je l'ai dit, des dioxydes de soufre, il y aura ce qu'on appelle les pluies acides qui vont provoquer le dépérissement des forêts et des arbres. Donc, la pollution n'est pas la bienvenue sur l'écosystème forestier ou sur les arbres. Elle pose également des problèmes au niveau de l'écosystème forestier. Donc, c'est cela que nous voulons dire. Donc, il faut faire en sorte que l'air ne puisse pas avoir de polluants extrêmement dangereux. Et tout ça, ça dépend de la manière dont vous allez gérer les sources qui peuvent induire l'émission de polluants au niveau de l'atmosphère.
Vous avez parlé des deux sortes de polluants, disons des yeux. Vous avez parlé de l'homme,
la pollution anthropique
et la pollution naturelle. Vous n'êtes pas étendu sur la pollution naturelle.
Oui, sur la pollution naturelle, c'est ça que je disais. Donc la pollution n'est pas quelque chose qui est d'actualité, c'est-à-dire elle a toujours existé depuis la nuit des temps. C'est-à-dire dans la nature, il y a des mécanismes qui font que des polluants soient envoyés dans l'atmosphère. Parce que quand on voit d'ailleurs dans la composition de l'air, vous avez l'azote, vous avez l'oxygène, vous avez le CO2, vous avez l'argon, autant d'éléments qui se trouvent. Mais ces éléments, comment ils se sont retrouvés dans la nature? Mais il y a beaucoup de mécanismes qui font que ces éléments se retournent. Vous avez par exemple les éruptions volcaniques. Ça, c'est la pollution naturelle. Il renvoie donc des quantités importantes de polluants dans l'atmosphère. Vous avez par exemple les érosions éoliennes. Renvoie des poussières et des quantités importantes. Ça, ce n'est pas l'homme qui le pose. C'est la nature qui fait que ces polluants se retrouvent dans la nature. Donc, voilà ce que je pouvais dire à ce qui concerne le polluant naturel. Pour le combattre aujourd'hui, comme on l'a dit, les quelques conseils que nous pouvons donner, c'est les mots aux ménages. que l'utilisation de tout ce qu'il y a comme aérosol, l'utilisation de peintures dans les maisons doit être très bien contrôlée face à des gaz, ce qu'on appelle les polluants organiques.
Bien aérer la maison.
La maison doit ouvrir les fenêtres. Et pour les gens qui prennent par exemple de la cigarette, il faut dire que la fumée de la cigarette, ça partie de ce qu'on appelle, pollue également la zone.
Ça pollue l'air.
Dans la fumée de la cigarette, je dis, vous avez autour de 4000 molécules, 4000 substances. Et dans les 4000 substances, vous avez au moins 40 000 tels que les formalides sont très très cancéreux. Donc, il est strictement dans un enclos très renfermé. Il n'est pas très bon de pouvoir fumer parce que vous êtes entraîné pour citer les gens.
Avec vous faites fumer ceux qui sont à côté
de vous. Vous faites fumer, vous êtes en train de les intoxiquer avec ce que vous êtes en train de faire. Donc, ce n'est pas pour rien que les gens interdisent la fumée, mais c'est à cause de tout ce qu'il y a comme substance. Vous allez jusqu'à 4 000 et 30 000 sont extrêmement
éléments dangereux dans la fumée du tabac.
Oui, vous avez par exemple le formaldéhyde qui est un produit très très cancérigène qui se trouve dans la fumée du tabac. Mmh. Donc, c'est des choses qu'il faut absolument prendre avec beaucoup de disposition, lorsque, surtout quand on est à côté
de la fumée. Ailleurs, dans certains pays, on a créé des zones non-fumeurs où il est interdit absolument de fumer.
C'est ça l'ordre qui existe dans ce pays. Donc, on essaie un peu de protéger la population avec des mécanismes, avec des lois, avec des règles comme ça, pour que les gens n'attrapent pas des maladies comme ça par la simple volonté d'un individu qui doit fumer sa cigarette à côté.
Mmh. Bien, merci Jean de Dieu Mélingou, notre intervieweur en agronome. Merci et à la prochaine.
Merci, je vous dis à la prochaine.